Hey, c'était bon, ça!
Qu'est-ce qui était bon?
Ah, j'en ajouterais tellement. Parce que tu dis tout le temps que les auditeurs, ce sont tes boss, hein?
Oui, madame.
C'est eux les boss. Okay. Et la direction a passé un message aux auditeurs qui sont tes boss. Mm-hmm. Comme quoi, ce serait bien que tu lises tes courriels, que tu répondes aux textos.
Ce qui est encore le plus weird, là, vas-y. Pascal, c'est que cette production-là roule depuis le début d'août.
Oups! J'entendais. Yannick, ça veut dire que je travaille fort dans les coins. Ouais. C'est ça l'important.
Parlant d'un autre qui travaille fort dans les coins, c'est notre chroniqueur international, Louis Gauthier, qui est en Ontario actuellement. Salut, Louis.
Hey, bonjour, Québec.
Très content de te jaser, mon ami. Tu roules beaucoup, toi. C'est-tu vrai qu'il y a une grosse différence d'asphalte entre l'Ontario et le Québec? Là? C'est une différence marquée, là?
Bien, je te dirais que tout le monde a mis la main à la pâte parce que là, on est en train de faire des travaux routiers, que ce soit en Ontario, dans l'État de New York, la 81, la 95, la 401. Mais Québec, ce qui m'impressionne toujours depuis les 25 dernières années, c'est le pont de l'île aux Tourtes dans l'ouest de Montréal. On est toujours en construction dessus. Si on pense que ça va coûter 1,2 milliard pour faire le pont de l'île d'Orléans, seriez très surpris de savoir comment ça a coûté de réparer, d'entretenir le pont de l'île aux Tourtes depuis 20 ans.
Ah ouais, il y a une grosse facture.
Oui, nos taxes rapportent pas dans ce cas-là.
Ouais, puis ça roule-tu bien aux États-Unis? Qui sont les meilleurs conducteurs? Est-ce que c'est les Américains, c'est-tu les Ontariens, c'est-tu les Québécois?
Je vais répondre à cette question-là, Yannick, que si je faisais passer les permis de conduire à 10 personnes de ton choix, ben les routes seraient un peu plus désertes.
À ce point-là?
Oui.
C'est quoi, oui, tout le monde conduit?
Non, c'est très sérieux, Yannick, ce que je dis. Si je vous demandais de repasser vos cours de conduite, il y en a un sur deux qui ne passerait pas.
Oui, mais c'est surtout l'interprétation des panneaux. On dirait qu'il y en a qui oublient ça. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait un stop, t'es supposé entrer sur l'autoroute, t'as un triangle rouge à l'envers. Ça, c'est un genre de céder le passage. Donc, mm-hmm. Tu dois adapter ta vitesse pour être capable de t'immiscer dans la circulation. Il y a des gens qui font des stops. Ils paniquent carrément, puis ils font des stops. Mais imaginez-vous le chauffeur de van qui est en arrière de vous, là, qui transporte plusieurs
milliers... 80 000 livres de charge.
80 000 livres. Lui,
ça
il prend son swing pour embarquer sur l'autoroute. Route, là. Donc, si vous lui faites faire un stop, là, sa journée est un petit peu plus difficile.
Mais ce qui est particulier, tu parles des stops, mais on ne parle pas des signaux avancés annonçant le stop, annonçant des travaux, annonçant peu importe quoi. Tu n'as pas idée le nombre de biens d'infraction qui vont se donner en zone de construction. Parce que j'en ai passé à peu près 7, et sur les 7 depuis hier, là, sur la 81, il y a eu à peu près pas loin de 3 à 5 amendes qui ont été données.
Hop-là.
C'est doublé dans ce secteur-là, je ne me trompe pas, là, quand tu es sur un chantier de construction, puis tu as une amende.
Puis aux États-Unis, c'est pire si tu n'as pas une plaque d'immatriculation qui vient de l'État au-dessus.
Louis, il y a des gens qui nous écrivent que les pires conducteurs, on les retrouve du moins du Nord, là, c'est en Virginie du Nord. Puis là, j'ai fait un genre de copier-coller sur Google. Puis ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, les conducteurs de Virginie sont les deuxièmes pires du pays. Mais t'es-tu d'accord? Pourquoi est-ce qu'on mène à des sondages à savoir qui conduit mal, le plus mal? Comment est-ce qu'on le comptabilise? C'est par nombre d'infractions?
Bien, je te dirais que c'est pas loin derrière la Pennsylvanie. Parce que c'est surtout le secteur de la 81 dont je parle. Les gens vont le savoir. Là, lorsqu'on traverse en Ontario, on prend la sortie 661. Sur la 401 ouest. Puis là, ça nous amène sur la 81 qui descend pratiquement jusqu'à Nashville dans le Tennessee ou pas loin du Tennessee, à tout le moins dans le Kentucky. Puis, il y a des zones sur la 81 où il y a des changements de vitesse assez fréquents. Tu passes de 70 à 55, tu reviens à 65, tu redescends à 45. Puis les gens, surtout, tu as beaucoup d'axes routiers en Virginie qui amène vers la colline de Washington. Donc, Alexandria, tout ce coin-là, Washington, juste avant Richmond, je te dirais Fredericksburg, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui restent dans les terres. Pareil comme si on était à Québec, puis on restait au lac Beauport, on restait à Pont-Rouge, on restait dans Bellechasse. Ça converge tout le monde. Donc, les gens ont hâte de rentrer. Puis, tu as des capitales, comme la capitale de la Pennsylvanie, elle est pas loin de là, c'est Harrisburg. Donc, de la route, la 78 qui arrive, il y a beaucoup de trafic dans ce secteur-là. Puis oui, ça se cogne, puis ça arrive souvent que des voies fermées.
Moi, j'ai été en Californie, puis ce qui m'avait marqué, Louis, c'était à hauteur de San Francisco, sur les autoroutes. Bon, les véhicules, on était dans le trafic, mais si tu avais une moto, tu pouvais rouler sur les lignes pointillées. Puis j'ai vraiment trippé à rouler sur les lignes pointillées à moto, parce que tu rentres plus vite en ville, puis t'as pas besoin d'attendre en arrière des autres véhicules. Mais je me suis passé à réflexion, si jamais ça arrivait, ça, au Québec, là, ça serait impossible à instaurer. Les jeunes nous barreraient la route parce qu'ils sont jaloux, parce qu'on peut passer ces lignes pointillées.
Avant de penser à faire passer des motocyclettes sur les motocyclettes sur les pointillés à Québec, il faudrait commencer à céder le passage aux piétons qui traversent la rue, comme ça se fait partout dans le monde. Les automobilistes arrivent, à la minute qu'on voit quelqu'un sur le trottoir qui s'engage sur la route, on met les freins pour laisser passer les gens.
Les clignotants.
C'est partout au Canada puis aux États-Unis.
Les clignotants, il faudrait pas que ça soit optionnel. Juste hier, là, j'ai rêvé d'avoir une caméra sur ma fenêtre avant de char, là, le temps de me rendre de la station à chez nous. Il y a eu 3 à 4 choses qui étaient invraisemblables qui sont arrivées, puis je trouve que c'est de pire en pire. Ce matin, moi, j'ai un embranchement dans mon coin où il y a quelqu'un qui arrive de l'autoroute, qui prend la sortie d'autoroute puis qui a pas d'arrêt stop à faire. Fait qu'il faut le savoir, faut être conscient, mais ça peut être dangereux. Je comprends, mais il y a une personne qui a fait un stop puis qui comprenait rien puis continuait, fait que là ça a mêlé tout le monde. C'est constant, je trouve que c'est pire. Puis je me suis dit, j'en parle ça en nombre ou je vais avoir l'air chialeuse, mais je trouve que c'est pire depuis les 2 dernières années. Je sais pas si les gens qui ont moins conduit en pandémie, ils ressortent, ça fonctionne. Mais il y a vraiment quelque chose que je trouve qui est arrivé.
Pascal, c'est parce qu'il y a un autre facteur qui est arrivé. On a beaucoup de nouveaux arrivants au Canada, puis eux. Autre que d'avoir une licence commerciale comme j'ai, ils doivent suivre un cours particulier. Mais lorsque tu as un permis de classe 5, comme le commun des mortels en a, eux ne font seulement que changer et passer un examen théorique. Mais ils font ça dans un temps record. Ils n'ont pas le temps de connaître tous les aléas de la route ou les attitudes à connaître sur la route quand ils viennent de pays européens. C'est la même chose que si nous, on va prendre une auto puis on se promène, on part de Paris pour aller vers Nantes, exemple, sur l'autoroute, bien, il y a d'autres signes qui existent, qui sont similaires aux nôtres, mais on ne les assimile pas tout de suite. Donc, pour les gens qui arrivent chez nous, c'est la même chose. On fait des stops, on ne sait pas où on va, on signale à gauche pour tourner à droite. Il y a beaucoup de nervosité qui arrive quand on conduit dans des villes qu'on ne connaît tout simplement pas.
Louis, on va passer à l'international, mon ami, si tu le veux bien. On parle encore d'Israël. Est-ce qu'il y a du développement là-bas?
Bien, écoute, là, il y a encore des attaques. Là, on voit qu'on s'attend à une attaque terrestre d'Israël vers le Liban. Mais la question que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pourquoi Israël ne lâche pas le morceau? Bien, c'est peut-être une vieille dispute qui existe depuis plus de 50 ans. Il y a 50 ans, à l'époque, la première ministre en Israël était Golda Meir. C'est une des fondatrices de l'État d'Israël de 48, elle était là. Ça commençait à se parler parce qu'on commençait à voir les défis à relever avec l'Organisation de la libération de la Palestine qui voulait avoir un État qu'on connaît aujourd'hui comme un peu la bande de Gaza. Et il y avait quelqu'un qui émergeait à ce moment-là qui s'appelle Yasser Arafat. Là, ça a commencé à péter. On a eu des guerres, on a eu des conflits sur le bord des frontières, l'Égypte s'en est mêlée, jusqu'à temps que l'année suivante, ça soit Yitzhak Rabin, avec son parti travailliste, qui était très populaire en Israël, prend la relève du gouvernement de Golda Meir, et on a Jimmy Carter qui devient président des États-Unis. Jimmy Carter, on le connaît, toujours vivant aujourd'hui, pratiquement 102 ans, a été l'un des peut-être meilleurs négociateurs qu'on n'a pas connu dans le monde diplomatique. Et lui, il a commencé des négociations de paix entre l'Égypte, Israël et dans le but de former ou de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'OLP. Ça a connu son dénouement en 1994, quand Yitzhak Rabin n'étant plus premier ministre, est devenu un attaché spécial de Shimon Peres, qui était le premier ministre, et Yasser Arafat, qui ont convenu avec Bill Clinton, qui était président des États-Unis à ce moment-là, de céder un territoire. Le territoire est finalement ce territoire de la bande de Gaza qui vient jouer un peu avec le sud-ouest d'Israël et la frontière de l'Égypte. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, c'est en plein territoire qui est en conflit, qui a amorcé le conflit actuel, qui va faire un an le 7 octobre prochain. Donc, tout le monde tape des mains, tout le monde est content. Yasser Arafat promet de ne pas faire de conflit armé. Shimon Peres promet de reconnaître ce territoire-là maintenant comme un État appartenant à la Palestine. Et tout le monde est nommé pour le prix Nobel de la paix cette année-là. L'année d'après, Yitzhak Rabin est assassiné avec 2 balles dans le dos. À Tel Aviv lors d'une manifestation ou de quelque chose pour la paix qui s'est fait à ce moment-là. Ça, ça veut dire qu'à l'époque où on a cédé le territoire, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Et ce territoire-là a tout le temps été une zone de conflit entre l'État hébreu et l'État musulman. Et là, bien, ça a pété l'an passé, justement pour ce territoire-là. Et pourquoi le gouvernement israélien ou l'État hébreu est en train d'attaquer sa frontière nord du sud du Liban, c'est justement pour éradiquer une fois pour toutes ces menaces d'attentats. Donc, vous voyez que ça remonte à très longtemps, mais qu'est-ce que ça nous dit en même temps, Yannick et Pascal? Ça nous dit tout simplement que lorsqu'on cède un territoire, la tête du chef qui a signé ça est mise à prix. Puis c'est ce qui risque d'arriver en Ukraine parce que Volodymyr Zelensky, avec son plan de fin de conflit, prévoit une cession de territoire. Puis c'est jamais passé dans l'histoire que ton chef d'État d'un pays qui cède pour avoir la paix passe auprès de la population.
Tu as l'impression qu'on pourrait essayer de le canceller, c'est ça?
C'est écrit dans le ciel.
Ah oui?
Oui, si jamais il y a une cession, parce qu'écoute, l'Ukraine a passé par une cession en 2014 de la Crimée. Là, on est en train de regarder le Donbass qui est en train de passer à l'autre. Lui, ce que Zelensky a fait, c'est plus au nord, la petite ville de Kursk, en territoire russe. Lui, pour lui, ça aurait une importance économique de haut niveau, en raison de ce que je vous expliquais la semaine dernière, le fameux pipeline Nord Stream 2 qui passe dans ce coin-là, puis on aurait accès. Donc, lui, ça serait comme un prix de consolation s'il y avait ça, mais est-ce que ça va passer le test auprès des Ukrainiens qui ont perdu beaucoup de membres de leur famille dans ce conflit-là, qui ont perdu beaucoup d'argent, que les taux d'inflation pètent dans le plafond au 7e étage? Tu comprends? Ils risquent d'avoir la même chose qu'on a vu il y a plusieurs années dans la cession du territoire de cette petite parcelle de terre-là de la bande de Gaza. Ça ne part jamais bien dans l'histoire des pays qui ont cédé du territoire au profit d'un ennemi voisin.
Pour ce qui est d'Israël, avec son Mossad là, qui nous a montré qu'il existait encore bel et bien dans les derniers jours, as-tu l'impression qu'il va y avoir une grosse vengeance de la part du Hezbollah? Est-ce que le Hezbollah a les moyens technologiques pour essayer de créer un impact aussi fort que celui que les agents du Mossad ont créé en faisant exploser des milliers d'agents du Hezbollah?
Écoute, là, présentement, je dois dire que le Hezbollah en a mangé une sincère. OK? Et la façon dont l'armée israélienne intervient, c'est justement pour éradiquer. C'est le même modus operandi qu'ils ont fait sur la bande de Gaza. Donc, la menace va venir, mais ne viendra pas du Hezbollah, ne viendra pas du Liban. Elle va venir d'un pays comme l'Iran qui finance tout, et même le Yémen qui est prêt, qui a une équipe B pour intervenir, qui sont habitués à faire des coups sournois de terrorisme.
Parce que c'est génial là, ce que le Mossad a réussi à faire, mais ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de créer un aussi gros impact de l'autre côté? Je veux dire, ça ne peut pas faire autrement que nous laisser craindre le pire. Je veux dire, s'ils sont capables de nous atteindre avec les appareils technologiques, là, je veux dire, on est entouré d'appareils technologiques. Là.
Mais là, c'est pas la première fois qu'on s'en rend compte. Là. Je veux dire, ouais, ça fait des années. C'est juste que toi, tu trouves que c'est frappe au visage.
Une opération comme ça, les agents du Mossad ont frappé fort. Là. Ils les ont tous détruits. Là. Je veux dire, c'est la hanche qui part, Pascal. Là. C'est le Padgett qui est là, qui explose, c'est la hanche qui part. Les gars, ils pourront pas travailler pendant une couple d'années, puis il y en a qui vont arrêter de travailler tout simplement. Là.
Mais tu sais, je veux dire, tu vois ce qui se passe, tu lis les trucs à l'international, tu te rends compte que c'est ça, puis la prochaine guerre, elle sera hautement technologique, du genre aussi centrale électrique et autres. Et on s'est rendu compte, entre autres aux États-Unis, que la Chine est dans des systèmes informatiques prisés gouvernementaux depuis des années maintenant. C'est des choses qui sont bien au-devant de nous. Le Padgett, pour moi, ce serait juste une découverte comment dire, très, très usuel là, de ce qui pourrait être dans les prochains contextes de guerre.
Aujourd'hui, je vous ai parlé, Pascal et Yannick, de deux générations, parce que 50 ans, tu as deux générations là-dedans. C'est quoi la différence entre les deux générations? Pourquoi aujourd'hui on en parle tant? Pourquoi on craint plus? Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé à l'époque de la guerre froide. La guerre froide existait, c'était entre l'Est et l'Ouest. On savait ce qu'on pouvait s'attendre du Proche-Orient, on savait ce qu'on pouvait s'attendre du Moyen-Orient, parce que tu avais les pays de l'OPEP qui contrôlaient le pétrole, puis les forces occidentales devaient intervenir pour être sûres de contrôler les prix. Et autant du côté soviétique à l'époque, qui était du côté de l'Est, on se tenait. Et la Chine était très fermée parce que c'était la Chine de Mao Tse-Tung à l'époque. Donc, le fameux livre rouge, si vous allez lire ça aujourd'hui, vous allez comprendre, c'était un empire à l'intérieur du communisme, très fermé, on ne savait pas trop ce qui se passait, même que les Corées ne bougeaient pas, même que Hong Kong savait un jour qu'elle allait tomber là-dedans, parce qu'elle a été rétrocédée en 1997 par le gouvernement britannique à la Chine. Donc, tout le monde se tenait tranquille, sauf qu'on savait ce qui se passait au niveau de la guerre froide, c'était ce fameux rideau qui séparait Berlin en deux, qui déterminait qui était du côté Est et du côté Ouest. Aujourd'hui, ce rideau-là n'existe plus, mais on se trouve qu'il y a 40 % plus de pays qu'à la Deuxième Guerre mondiale, et en raison des moyens d'information, la technologie, on est au courant, puis oui, il faut craindre. Parce que la preuve, les services secrets américains interviennent auprès, là, le Congrès a voté pour que Donald Trump, qui est un candidat à la présidence pour les Républicains, est la même protection que Joe Biden, qui est président présentement. Donc, on est en train de dire que les anciens présidents doivent avoir la même protection, même s'ils ne sont plus en fonction. C'est ce que ça veut dire. Et les services de renseignement ont informé l'équipe de campagne de Donald Trump qu'il y avait des menaces sérieuses d'atteinte à sa vie provenant de l'Iran.
Il va-t-il y avoir une troisième tentative sur Donald Trump? On se le souhaite pas. En fait, on lui souhaite pas. On va dire ça comme ça. Juste revenir un peu sur l'âge de Jimmy Carter.
Il y a autant de chances qu'il y ait une troisième tentative qu'il y ait des nids de poules au printemps prochain.
Oui. Mais on souhaite que ça arrive pas, OK? Il y a une petite coquille qui s'est glissée tantôt pour ce qui est de Jimmy Carter, parce que de mémoire, il n'était pas encore centenaire. Là. Tu vois, tu me dis 102 ans.
Il n'est pas loin de là.
Il va avoir 100 ans le 1er octobre.
C'est ça.
Puis il est encore président. Je veux dire, quand tu es élu président aux États-Unis, puis tu fais ton mandat, tu es président jusqu'à la fin de tes jours. Fait que lui aussi bénéficie d'une protection.
Là. Oui, bien lui, présentement, il est au CHSLD, là. Puis il y a quand même un président comme lui, il y a à peu près 3 agents des services secrets qui s'en occupent.
Ça doit être assez tranquille au CHSLD pour les agents. Là.
C'est très, très tranquille. Puis je dois t'avouer que s'il y avait encore toute sa tête, Jimmy Carter, il y a encore les présidents puis des conseillers au niveau de la sécurité internationale qui iraient le voir, parce qu'il passe jusqu'à maintenant comme étant la personne qui a été capable de contrôler l'échiquier mondial au niveau de la diplomatie.
Roselyn Carter est décédée.
Elle est décédée.
C'est l'an passé, je pense. Ça fait pas si longtemps que ça. Ils ont eu quand même une belle vie, on va se le dire.
Ah, les peanuts, ça te garde jeune longtemps.
Ah, parle pour
toi. Parce que la famille Carter, c'est une famille d'arrachés et tout ça dans les Carolines.
Exact. Salut, Louis Gauthier.
Hey, bonne journée tout le monde.
Merci. Bye-bye. L'excellent Louis Gauthier. Non, moi, ça m'a fait triper, ça, le coup que le Mossad a fait aux terroristes du Hezbollah, de les faire exploser avec leurs padgets. Ça m'a fait halluciner. Puis de voir à quel point il peut y avoir des gros épées au travers de ça qui ont traîné, qui n'ont même pas pensé ouvrir leur CB qui leur avait été fourni par leur groupe de terroristes. Ils n'ont même pas ouvert le CB.
Tu sais, je l'aurais ouvert. Moi, je pense que j'aurais abandonné.
Aussi, ben oui.
Parce que ouvrir, mettons, j'aurais peur qu'il me pète d'en face en ouvrant le premier capot de plastique.
C'est le bon réflexe, tu sais. Je veux dire, tu te fais pogner avec le padget. Je sais pas, moi. Tu l'as laissé, tu voulais aller prendre ta douche, tu l'as laissé sur le comptoir, ça explose. T'apprends que tous les autres agents, comme toi du Hezbollah, leur padget a explosé. Mon premier réflexe, c'est de m'éloigner de toute la technologie qu'on m'a offert.
Ouais, parce que tu dis, admettons qu'ils pensent qu'on n'avait pas notre padget sur nous à ce moment-là. Est-ce qu'ils ont caché ça ailleurs pour être certains de ne pas manquer leur coup?
Ben oui.
Mais en tout cas, cette guerre technologique-là me fait encore plus peur et m'intéresse encore plus pour des raisons de curiosité par rapport au web.
Ah oui?
Ouais, au-delà de tout ce qui est appareil explosif sur des appareils.
All right, vous avez des choses à nous dire sur le 418-971-1021.
Ne stressez pas, là. Non, non. Tu sais, on veut pas vous stresser.
C'est quoi le padjet que tu m'as donné? Hein? Ray Red Hot!